France Info.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Au menu ce soir, une heure d'actualité de débat sur la mobilisation contre General Electric et son plan social à Belfort. Plus de 1000 emplois supprimés. Les habitants, les commerçants, les élus de droite, de gauche étaient dans la rue. Quel avenir pour ce site ? D'avenir pour les politiques, il en sera également question. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon était à Belfort. Fort, le PS tenait son congrès national. Le parti estime que c'est à lui de faire vivre le clivage gauche-droite dans ce pays. Les Verts, eux, vont-ils transformer l'essai des européennes ? Certains pensent qu'ils ont le melon du nouveau également chez les Républicains avec la candidature de Christian Jacob. Les grandes manœuvres pour les municipales ont donc commencé. Les informer ce soir avec vous, avec nous, Pierre Jacquemin, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du magazine Regard, François de Closet, bonsoir.
Bonsoir.
Écrivain, journaliste, homme de télévision, Raphaël Kahn, bonsoir.
Bonsoir, Ney.
Journaliste, présentateur du débat sur France 24 chaque soir, et Neila Latrousse, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient de Jeune Afrique, les informer jusqu'à 21h, c'est à la radio et à la télévision sur le canal 27. Belfort, donc une journée électrique, hein. 5000 manifestants. Selon la préfecture, 8000 selon les organisateurs dans les rues, donc pour dire non au plan social de General Electric, un plan qui prévoit la suppression de 1053 personnes sur les 4300 salariés employés à Belfort. Écoutez ce syndicaliste aujourd'hui rappelant la mobilisation.
On a bloqué deux fois les réunions que la direction voulait nous imposer avec les salariés de toutes les catégories. La direction a reculé deux fois. Et la direction, elle a reculé, elle est repartie la queue entre les jambes. Et chaque fois qu'elle nous convoquera, ce sera comme ça. On a tout intérêt à être ultra mobilisés. En tout cas, soyez sûrs que nous, côté intersyndical, on est ultra déterminés. On ne lâchera pas cette affaire-là.
Voilà, les syndicats de General Electric ont en effet empêché pour la deuxième fois la tenue à Belfort d'une réunion avec la direction qui aurait dû ouvrir les négociations sur le plan de suppression d'emplois dans la branche des turbines à gaz. Manifester, bloquer, est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sauver cette usine, François de Closet ?
Vous savez, sur Alstom, ce qui est terrible, c'est qu'on a tout. Essayez, quand vous refaites l'histoire d'Alstom, il y a eu une période de nationalisation, puis de privatisation, on a divisé, des étrangers sont venus, et l'État est intervenu, Sarkozy, etc. Et tout ça, pour arriver à cet échec, étant entendu qu'à chaque fois, il y a des gens qui critiquent ce qui a été fait, mais qui sont à peu près dans l'impossibilité de critiquer, de dire ce qu'il faudrait faire. Vous voyez, là, par exemple, tout est venu, si je puis dire, en 2015, de la vente d'Alstom à General Electric. Et à l'époque, il y avait Arnaud Montebourg qui voulait la vente à Siemens. Bon, alors, je ne sais pas quelle a été la meilleure solution, mais ce que je sais, c'est que General Electric a fait une très mauvaise affaire. Pourquoi ? Parce que les turbines à gaz étaient un secteur qui allait être en déclin, et que effectivement, dans cette branche, on dit que General Electric perd 800 millions.
C'est inéluctable.
Donc, dans la mesure où, effectivement, cette branche est en perte de vitesse, ce qu'il faudrait... La vraie chose insupportable, c'est pas qu'on ferme cette usine, c'est qu'on n'ait pas ouvert une usine pour les éoliennes, pour les photopiles, qui sont appelées à générer l'électricité de l'avenir.
On n'a pas anticipé les changements.
Et voilà.
François, Raphaël Kahn, pensez que le combat est perdu d'avance, ça ne sert à rien ces mobilisations ?
Alors, sur le fond, je suis d'accord avec ce que vient de dire François de Closet, c'est une vision assez schumpeterienne finalement. Il y a la destruction des emplois qui n'ont plus de vocation à terme et que ça ne sert à rien de maintenir effectivement. Au contraire, ce qu'il faudrait favoriser, c'est les créations d'emplois. En France, chaque jour, il y a 10 000 destructions d'emplois, mais à peu près autant de créations, sauf que ce qu'on voit, ce sont les plans sociaux, parce qu'effectivement, il y a un effet très, très visuel et médiatique. En revanche, les créations,
plus
c'est
d'impact social
dans chaque entreprise. Il ne vaut mieux pas favoriser ça, effectivement. Bon, ça, c'est la question de fond. Après, dans le cas précis d'Alstom, il y a effectivement un rachat d'une activité, la branche énergie d'Alstom par General Electric. Mais dans le cas précis de l'usine de Belfort, celle de Turbine, elle appartenait à General Electric avant, depuis 1999. Et donc, l'entreprise avait avait déjà pu se rendre compte du potentiel réel de l'usine. Pourquoi donc s'être engagé en 2014 dans le plan, l'accord conclu avec l'État à la création de 1000 emplois, qui d'ailleurs n'ont pas été créés à la clé, avec donc 50 millions d'euros d'amende?
On va revenir évidemment sur ce qu'il faut faire maintenant sur le site de Belfort. Pierre Jacquemin, sur ces combats justement aujourd'hui, ces mobilisations, on empêche l'ouverture de négociations. Est-ce que ça paye pour vous ?
Je pense qu'il faut alerter la population et je pense que l'objectif de cette mobilisation, c'est aussi de sensibiliser sur les questions de désindustrialisation, de perte des emplois, de d'engagements qui n'ont pas été tenus de la part de l'État comme de la part de General Electric, du maire général. Donc oui, je pense que la mobilisation est nécessaire et elle est d'autant plus nécessaire et presque inédite qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec l'ensemble de l'échiquier politique, le sein des syndicats, le MEDEF, la droite, la gauche, qui se retrouvent mobilisés sur le maintien d'une activité ou en tout cas le maintien d'emplois. Et je suis d'accord sur un sujet et c'est ça qui, moi, me préoccupe, c'est de voir l'absence de vision qu'ont les politiques aussi donc quand ils prennent des décisions, quand elles ont été prises, quand il s'est agi de vendre Alstom Energy, par exemple, de ne pas avoir perçu justement la France pendant longtemps a été un fleuron quand même sur bien des sujets, sur l'aéronautique, sur y compris sur l'énergie d'ailleurs.
A été
un succès, mais bien sûr, industriel
évidemment. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en capacité d'investir massivement et d'être à la pointe de la question de l'éolien ou en tout cas des énergies renouvelables. On aurait dû anticiper. Ça va être le même sujet sur les EPR. On fait des EPR encore aujourd'hui. Demain, il faudra convertir les emplois. On n'anticipe pas ces sujets-là. Et ça, c'est quand même un problème de vision politique, d'absence de vision politique.
Neil Alatrousse, le combat est perdu d'avance ou vous dites non, il faut continuer de se battre comme
industriellement,
on l'a fait
ça semble quand même perdu d'avance. General Electric est une entreprise qui ne va pas très bien, qui a perdu trois quarts de sa capitalisation en l'espace de trois ans, qui globalement fait des choix effectivement qui ont été contestés, qui ont été sanctionnés, notamment en matière de bourse. Sur l'éolien, d'ailleurs, on l'évoque, mais il y a quelques mois, GE a aussi annoncé potentiellement des suppression d'emplois dans l'éolien en France, au large de Nantes. Donc, en réalité, c'est une entreprise qui va mal. Et pour le coup, on peut se réinterroger sur le fait d'avoir choisi GE. Mais pour l'instant, ça a été fait. En revanche, l'État... En face, on remarque effectivement ce que disait François, les différentes tentatives de sauver cette compagnie en 2000, 2003, 2004, etc., se sont à chaque fois soldées par des échecs. Et moi, ce qui m'interroge un peu plus, c'est la capacité de l'État à anticiper. Et par ailleurs, enfin, surtout sa faculté à être un aléa moral dans les politiques publiques, mais
et à se faire respecter aussi.
Oui. On fait une pause pour le rappel de l'info et on revient évidemment sur le sujet de GE, General Electric, mais tout de suite Camille Revel.
Il dénonce le rouleau compresseur. General Electric, un cortège de manifestants à Belfort contre le plan social. Aujourd'hui, 5000 d'après la préfecture, 8000 selon les syndicats. Dans ce cortège, des salariés, des habitants, des politiques aussi comme Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, le plan social aura des conséquences gravissimes. Un appel national a manifesté. 400 gilets jaunes, un policier blessé, 13 personnes interpellées. Voilà le bilan de la journée à Charleville-Mézières pour ce nouveau samedi de mobilisation. Au total, selon le ministère de l'Intérieur, près de 12 000 gilets jaunes en France, mobilisation donc en hausse par rapport à la semaine dernière. Marlène Schiappa, elle veut défendre les femmes de chambre. Dans Le Parisien, la secrétaire d'État annonce un plan d'action pour améliorer les conditions de travail et lutter contre la précarité, avec une mission confiée au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Objectif, des propositions d'ici la fin de l'année. L'incendie qui fait 3 morts à Paris s'est a priori déclaré au rez-de-chaussée de l'immeuble tôt ce matin. C'est le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, qui le dit sur France Info. Pour lui, le bâtiment était en bon état. On ne connaît pas l'origine du feu. Une trentaine de personnes sont blessées. Si les Iraniens renoncent au nucléaire, je serai leur meilleur ami. Ça, c'est Donald Trump qui parle. Quand ils auront accepté ça, ils auront un pays riche. Ils seront tellement heureux, assure le président américain, qui annonce aussi de nouvelles sanctions contre Téhéran. L'Allemagne, première qualifiée pour les quarts de finale du mondial féminin de football, elle bat le Nigeria 3-0.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Les informés jusqu'à 21h avec toujours autour de la table Pierre Jacquemin, François de Closet, Raphaël Kahan et Neila Latrousse. Alors on évoquait les responsabilités et que faire de General Electric. On entend souvent le nom d'Emmanuel Macron puisque c'est le président de la République aujourd'hui qui est aux commandes et aux affaires. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder du côté des États-Unis, de Donald Trump et de son nationalisme quand il dit l'Amérique d'abord? C'est aussi une usine qui est créée de General Electric en Caroline du Sud et on ramène des emplois plutôt aux États-Unis. François de Closet.
Mais écoutez, souvenez-vous, je remonte à loin, hein. Il y avait eu un problème parce que Renault voulait fermer une entreprise qui était l'entreprise Vilvoorde. Hein. Et finalement, évidemment qu'on l'a fermée. Pourquoi ? Bah parce qu'elle était en Belgique. Hein. Il est évident que Lionel Jospin s'était engagé. Non, Vilvoorde. Mais Vilvoorde était en Belgique. Et c'est peut-être pas un beau mot, parce que c'est le Front National. Mais la préférence nationale, tout le monde, en fait, la ressent. Évidemment, on veut créer des emplois en France et... Lui, évidemment, Trump, qui n'a aucun complexe, dit « Mais les emplois que je vais créer, je vais les reprendre à la Chine, je vais les reprendre au Mexique, etc. » Il joue le protectionnisme et la préférence nationale à outrance. Et il faut quand même pas, nous, être des enfants de cœur et dire « Ah ben non, la concurrence libre et non faussée. » La concurrence libre et non faussée, oui, en faveur de la France.
De manière générale, en politique industrielle, l'État en France n'est pas un modèle de manière générale. Quand on regarde sur les derniers dossiers où l'État s'est impliqué, je repense à notamment l'alliance Renault-Fiat qui a capoté sur intervention de l'État. Si on regarde encore une fois l'histoire de Alstom, on est globalement sur des politiques publiques en matière industrielle qui privilégient le très court terme, le gain électoral immédiat. Moi, ce qui me choque le plus dans l'histoire de GE, c'est pas tant que GE supprime des emplois. Cette histoire de 1000 emplois non créés, ça a été annoncé en février, ils ont payé l'amende, on le savait, ils ont encore une fois annoncé...
Ils s'étaient engagés à créer dans la branche énergie 1000 emplois.
Ce qui est plus gênant, c'est que ce soit reporté à l'après-européenne, et c'est d'une certaine façon cette annonce qui est reportée après des échéances électorales, c'est symptomatique de ce qu'est notre politique industrielle en France, c'est-à-dire qu'en réalité, elle est calquée sur un certain nombre d'échéances. Aujourd'hui, la présence d'un certain nombre de politiques à Belfort a sans doute quelque chose à voir aussi avec les municipales de mars. Et peut-être que, de ce point de vue-là, un Donald Trump qui, lui, a fait carrière dans le privé, qui est un entrepreneur, qui privilégie l'économie, etc., a sans doute aussi une approche différente de ces dossiers-là que ce que l'on peut faire en France.
Que nous, on n'est pas capable de faire. Mais c'est un peu la faute de Donald Trump, finalement, sur cette affaire ? Pierre Jacquemin ?
Je pense qu'avant d'aller chercher des responsabilités à l'étranger, et évidemment, la politique industrielle, commerciale des États-Unis est à interroger parce qu'on sait très bien que...
Quand on crée une usine de turbines à gaz aux États-Unis, forcément... Les vases communicants font qu'en France...
Une chose est sûre, la stratégie de Donald Trump, c'est avant tout de s'adresser à son électorat et de montrer qu'en fait, la politique de Donald Trump, elle profite avant tout aux Américains. Donc s'il s'agit de relocaliser une entreprise aux États-Unis, évidemment qu'il le fera.
Mais et vous applaudissez, puisque en France, vous souhaitez la même chose.
Vous avez dit qu'effectivement Emmanuel Macron était président de la République. Il y a peu de temps, il était encore conseiller du président de la République, puis il a été ministre de l'économie. Il a une responsabilité dans cette affaire. C'est lui qui a été à la manœuvre lorsqu'il s'est agi justement de vendre Alstom à General Electric. Il a une responsabilité parce qu'il y a des engagements qui ont été tenus, qui étaient une relocalisation aussi et des créations d'emplois dans le secteur de l'énergie et notamment de l'énergie renouvelable, et que ça n'a pas été fait. Et il est aujourd'hui aux manettes, il est président de la République, il est à la manœuvre. On aimerait qu'il soit davantage justement pour projeter justement une économie différente, une réindustrialisation, pour projeter une relocalisation des emplois. Et c'est ça que ne fait pas Emmanuel Macron, et c'est ça qu'on attend aujourd'hui, je pense, de lui. Vous parliez de préférence nationale, je ne crois pas qu'aujourd'hui prôner la question du protectionnisme économique soit une question de préférence nationale, c'est une question de relance de l'économie et c'est aussi une question écologique parce que relocaliser des emplois, c'est aussi éviter les transferts, ou en tout cas les transferts de marchandises bien d'un sûr. Pays à un autre et l'augmentation à outrance par l'activité économique des émissions de gaz à effet de serre.
Sauf que c'est très difficile à vendre d'un point de vue en tant que philosophie le protectionnisme, parce que ça veut dire en gros, et là on le voit très très bien, que ça se fait au détriment des autres. Si effectivement ça consiste à relocaliser des usines, ça signifie donc des pertes de savoir-faire pour une région qui vont aller d'ailleurs bien au-delà de l'usine basée à Belfort elle-même, mais sans doute de la ville, des sous-traitants, et c'est donc une perte pour la France qui va être extrêmement difficile à recouvrer. Donc on voit bien que le protectionnisme, ça peut pas être une philosophie générale, comme d'ailleurs on le voit dans un tout autre sujet, qui est l'alliance des nationalismes et des patriotismes. Il y a forcément des limites, on le voit bien. L'alliance Salvini avec les dirigeants hongrois ou polonais, ça marche pas, parce que finalement, au final, on peut pas être d'accord sur la question migratoire. Par exemple, il y a énormément de limites. Et de la même manière, le protectionnisme en économie, ça peut pas être le protectionnisme universel.
Le protectionnisme universel, c'est pas possible, mais le libre-échangisme universel et de principe, on le voit, ça n'est pas possible non plus. Parce que on n'a pas fait l'harmonisation sociale et fiscale à partir de laquelle, effectivement, que le meilleur gagne, et venez pas pleurer si vous n'êtes pas bon. Tandis que lorsque on est en concurrence avec des pays qui, sur le plan fiscal et sur le plan social, sont à un tout autre niveau et que la concurrence porte sur le niveau des salaires et le niveau des impôts, c'est insupportable.
Mais est-ce que
ce moment-là, compenser
François
et dire non, non, je rétablis.
Est-ce que la faute, ce n'est pas aussi un peu la responsabilité de tous les politiques qui ont attaqué, par exemple, toutes les énergies fossiles, qui ont mis à mal, finalement, les turbines à gaz et ce secteur-là?
Là, je ne sais pas vraiment.
C'est dur à plaider quand même dans
lequel on est. Qu'est-ce qui est dur à plaider, Raphaël Kahn?
Non, le fait de dire c'est la faute des politiques qui, en attaquant les énergies fossiles, en gros, immédiatement risquent de détruire des emplois. À l'inverse, ça veut dire que Donald Trump, quand il sort de l'accord de Paris pour profiter à l'industrie, notamment carbonée américaine, il a une politique qui va dans le bon sens. On voit bien que c'est impossible. En revanche, ce qu'il faut effectivement, c'est essayer de créer les emplois verts de demain, mais ça de la même manière. Est-ce que c'est pas une chimère?
Mais juste un mot quand même sur les responsabilités. C'est aussi un échec de l'Europe, cette affaire, parce que l'Europe devrait justement être protectrice aussi. Justement, quand Montebourg a essayé justement de vendre la partie énergie à Siemens, c'était aussi une manière de relocaliser à l'échelle européenne, ou en tout cas de construire un géant à l'échelle européenne. Et ça, l'Europe, il n'y a pas de stratégie justement industrielle ou de la manière dont on repense aussi l'économie, l'industrie en Europe. Et ça, c'est aussi l'échec de l'Europe.
Je prendrai juste un exemple. L'histoire Siemens-Alstom, effectivement, ça s'est joué en 2015 sur la partie énergie, et puis ça s'est rejoué sur la partie transport ferroviaire. Et l'Europe a refusé une union qui était plutôt un rachat d'Alstom par Siemens, et là, est-ce qu'on peut dire, à coup sûr, que oui, c'eût été une très bonne chose pour Alstom? Non, ça n'aurait pas été une bonne chose. Donc, c'est vrai qu'on est très fort pour commenter, juger les politiques industrielles a posteriori.
Il n'y en a pas. François de Closet, reconnaissez qu'il n'y a pas de stratégie politique industrielle. On fait face à des événements, vous l'avez dit tout à l'heure, on a une réaction
de temps court, le temps politique.
On est sur du temps court, on est sur du temps politique, effectivement, et en fait, c'est très électoraliste, toujours.
Eh bien, le temps court, le temps file même. Il est déjà 20h20, le rappel de l'info, Camille Revel.
Un regain de mobilisation pour les gilets jaunes, 12 000 manifestants aujourd'hui, dont 1100 à Paris selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 400 manifestants à Charleville-Mézières après un appel national et au bilan selon la préfecture des Ardennes. Des dégradations et 13 arrestations des gilets jaunes dans le cortège à Belfort. 5 à 8 000 manifestants contre le plan social de General Electric. Le groupe veut supprimer plus de 1000 postes en France, principalement sur son site belfortin, dans le cortège des politiques comme Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon. 25 communes du quart sud-est reconnues en état de catastrophe naturelle après la grêle et les intempéries samedi dernier. Les départements les plus touchés sont la Drôme et l'Isère, avec parfois des récoltes agricoles totalement perdues. Cette reconnaissance va permettre de déclencher des indemnisations exceptionnelles pour les victimes. Une plage bretonne interdite d'accès pour cause d'algues vertes à Ilion, dans les Côtes d'Armor. Difficile de collecter ces algues échouées, dit la mairie. Il y a un risque potentiel en matière de santé publique. Angela Merkel appelle à combattre les néo-nazis sans aucun tabou et dès le départ. Déclaration de la chancelière allemande quelques jours après le meurtre d'un élu pro-migrant en Allemagne. Le suspect est connu comme sympathisant néo-nazi. Avantage Mercedes au Grand Prix de France de Formule 1. C'est le Britannique Lewis Hamilton qui partira demain en pole position sur le circuit du Castellet devant son coéquipier Valtteri Bottas.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Les informer jusqu'à 21h avec Pierre Jacquemin, François de Closet, Raphaël Kahn et Neyla Latrousse. Les politiques et Général Electric, il en a été question il y a quelques instants. Que peuvent-ils faire? En tout cas, être présents sur place. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui était à Belfort aujourd'hui pour défendre le patrimoine industriel français.
Comme beaucoup, je ressens comme une blessure l'idée qu'on puisse abandonner de tels outils, de tels collectifs humains, quand je dis collectif humain, je ne parle pas seulement des travailleurs de l'entreprise, mais de toute une population qui depuis au moins un siècle se mobilise sur la production industrielle, avec un patriotisme qui a commencé par le fait que cette société a été créée par une entreprise alsacienne qui voulait rester française et qui s'est établie à Belfort. C'est donc davantage qu'une usine dont il est question. Il est question de science, de technique et de patrie.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit un homme politique défendre des emplois. Ne riez pas, François de Closette.
Il y a une femme, Marine Le Pen, qui a fait rigoureusement la même chose entre les deux cours.
Des deux tours de la présidentielle.
Marine Le Pen, hein, Emmanuel Macron l'a fait aussi pendant la campagne. Hein, donc
voilà.
François Hollande l'a fait en son temps.
Elle s'est fait filmer exactement comme il se fait filmer. C'est une opération
mais il est sincère,
de communication.
Il est sincère, là,
ce qui
mal,
me
oui.
choque, attendez. C'est qu'on vient faire semblant de soutenir des gens alors qu'on se sert d'eux.
Raphaël Kahn, vous n'êtes pas d'accord
là,
avec ça
pour Mélenchon, là,
c'est pour Kahn. Autant on peut lui reprocher assez souvent d'exploiter, notamment quand on le voit avec un gilet jaune. D'ailleurs, là, c'est pas le moment que vous avez choisi de montrer.
Bah, c'est un pour gilet autant, jaune, offert le...
ouais, pour autant, sur le discours là, il est quand même assez à l'aise et assez en phase, je pense, avec ce qu'il porte depuis plusieurs années. On retrouve d'ailleurs des accents un peu chevènementistes dans cette défense d'une stratégie industrielle de la France et des savoir-faire. On peut penser ce qu'on veut de Jean-Luc Mélenchon, mais là, enfin, c'est difficile de dire qu'il n'est pas à sa place en tant que président de la France insoumise et d'une partie de la gauche.
Nelly Latrousse ?
Il est à sa place, Jean-Luc Mélenchon. Mmh. À Belfort, il a globalement... Bon,
mais il avait besoin de ça un peu pour revenir dans l'actualité, alors qu'il y a eu des tensions au sein du mouvement La France Insoumise.
Il y a une annonce qui a été faite par ses proches du retour au terrain, mais on peut effectivement penser que le calendrier, après les européennes, avant les municipales, avant les grandes mobilisations de la rentrée annoncées par les syndicats, peut prêter à sourire, mais il y a toujours des mobilisations d'abord. Donc pour un politique, on est assez vite accusé de coller à un agenda social ou autre. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon a fait pas mal de déplacements de ce type pendant la présidentielle, donc il est encore dans un registre qui lui ressemble. Mais effectivement, il y a un contexte en tout cas qui est celui, moi qui va m'intéresser un peu plus, qui est celui de composition des listes des municipales, où au sein de la France Insoumise, on explique que on va faire monter des figures locales qui sont très engagées dans certains combats locaux. Ils avaient évoqué... Il me semble que c'était aux universités d'été de Marseille, la méthode Alinsky, qui était de pousser des micro-noyaux insoumis à s'engager dans des combats locaux, alors pour refaire une cage d'escalier, pour refaire un bout de trottoir, des choses dans le genre. Il remit sur cette stratégie-là dans le cadre des municipales, et ce premier déplacement, cette première sortie post-européenne, vient confirmer en fait cette orientation politique ou stratégique qui a été adoptée par le mouvement.
Et aujourd'hui, on a appris la nomination du député du Nord, Adrien Quatennens, 29 ans, nouveau coordinateur de la France Insoumise. C'est pour calmer les tensions, Pierre Jacquemin, au sein du mouvement La France Insoumise ?
Il va y avoir beaucoup de débats encore, je pense, au sein de la France Insoumise. C'est pas une guerre d'ego, une guerre de chefs qui se joue au sein de la France Insoumise. Je pense qu'il y a véritablement une ligne stratégique, une ligne politique
d'organisation
qui
interne,
mais d'organisation aussi. Je suis pas sûr que le choix d'Adrien Quatennens. Je ne sais pas comment il a été désigné, choisi, nommé ou élu, parce que la convention ou en tout cas la commission représentative qui a lieu ce week-end de la France Insoumise est encore en train de se réunir jusqu'à demain, et donc je ne sais pas comment il a été choisi. Ça doit poser question à un certain nombre de militants de la France Insoumise de savoir justement, à travers ces critiques qui sont faites sur la question de la démocratie interne, de comment on peut s'exprimer, comment on peut exprimer une divergence et sur la stratégie de la France Insoumise et sur les contenus, parce qu'il y a quand même des débats aussi au sein de la France Insoumise sur les questions de la laïcité, sur la question de la souveraineté, sur bien des questions. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui doivent avoir lieu au sein de la France Insoumise. Adrien Quatennens est un jeune qui a émergé, qui a beaucoup de talent et qui s'inspire aussi de Jean-Luc Mélenchon à travers la parole forte, un peu le clash permanent. Il a besoin de s'adresser aux autres de manière toujours avec beaucoup de
force
et
de vigueur. Mais vous l'analysez comment cette arrivée?
C'est une forme de continuité, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande remise en cause, une grande remise en question de l'échec justement de ce qu'ont été les élections européennes. Les élections européennes ont été un échec parce qu'ils ont été justement sur cette stratégie populiste. Il y a une théorie au sein de la France Insoumise qui voudrait faire croire que Jean-Luc Mélenchon a fait 20% en 2017 parce qu'il était populiste. Non, Jean-Luc Mélenchon a fait une campagne totalement traditionnellement de gauche. C'est comme ça qu'il a capté l'électorat socialiste, c'est comme ça qu'il a capté l'électorat communiste et écologiste. La stratégie populiste les a conduits à l'échec. Et je pense qu'aujourd'hui, le choix d'Adrien Quatennens, c'est un choix de continuité. Jean-Luc Mélenchon reste quand même le chef d'orchestre de tout ça, et c'est quand même lui qui rassemble justement ceux qui prônent justement une gauche repensée
et les populistes,
comme Ruffin ou Quatennens.
Parlons clair.
Jean-Luc Mélenchon enfiler le gilet jaune, alors qu'on sait que d'après les sondages, les gilets jaunes à 44%
ont voté pour le Front National. François de Closette, ça contredit ce que vous disiez tout à l'heure, du coup. Parce que ça montre que c'est pas une opération de récupération.
Ça prouve si vous dites qu'il est monsieur, attrape tous les mécontents, la convergence des luttes.
Vous pouvez reprocher à l'un sur moi, mais quand même,
je suis l'homme de toutes les luttes, et franchement. D'autre part, pour ce qui est, alors je ne sais pas si vous avez lu la page du Monde sur la réorganisation de la France insoumise, mais je dois dire que dans le genre jargonnant de l'extrême gauche, c'est tout à fait réjouissant.
On revient dans un instant, les informés sont là jusqu'à 21h, on ne bouge pas.
Alice voyage avec Ulysse, le célèbre badge télépéage qui évite de faire la queue et de tendre le bras pour atteindre la borne de péage. Mais comme Alice en veut toujours plus, elle aimerait ne pas avoir à payer un abonnement toute l'année, heureusement. Avec son badge Ulysse temps libre, Alice ne paie que quand elle s'en sert. Quand j'utilise, je paie. Quand je n'utilise pas, je ne paie pas, qu'elle dit tout le temps Alice. Bref, grâce à Ulysse temps libre, plus d'attente, ni de crampes au bras pour Alice.
Ulysse, le télépéage par Vinci Autoroute. Abonnez-vous sur ulysse.com ou en boutique Ulysse.
C'est malin, c'est Ulysse.
Médias en scène, le premier festival des médias de demain revient le 8 octobre. Netflix, The New York Times, Twitch, Financial Times, la Fondation Bill Gates, The Guardian. Ils seront tous là. Et vous ? Soyez les premiers à vous inscrire sur mediaenscène.com. Mardi 8 octobre à Paris, Médias en scène, un événement France Info et Les Échos.
Avec Dentsu Aegis Network, TITS et la MGEN.
La météo de notre dimanche, la chaleur arrive, Jean-Michel Golinski.
L'air brûlant qui remonte d'Afrique va donner sur la France des températures de plus en plus chaudes. Chaleur qui, avant de baisser un peu en fin de semaine prochaine, deviendra quasiment partout caniculaire à partir de lundi. En fait, seuls les bords de la Manche et de l'océan vont conserver un air un peu plus respirable. Demain, il est prévu une trentaine de degrés en moyenne sur la plupart des régions, avec déjà des pointes vers 35 en Midi-Pyrénées. Il y aura pas mal de soleil sur les deux tiers est du pays et un ciel souvent plus voilé en approchant de l'océan et carrément plus gris le matin sur le Finistère avec possiblement des gouttes. À partir de lundi, là, les températures vont encore monter d'un cran avec 30 à 34 en général dans la moitié nord, 35 à 38 au sud et vraisemblablement 40 degrés sous abri en milieu de semaine en Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci d'écouter France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
Les infos, Solène Cressant.
Le feu serait parti du rez-de-chaussée. Déclaration d'Emmanuel Grégoire ce soir, premier adjoint à la mairie de Paris, après l'incendie du 11e arrondissement qui a fait 3 morts et une trentaine de blessés. Le feu s'est propagé très rapidement sur l'immeuble. Et l'immeuble n'était pas dégradé, affirme la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est peut-être ce qui a sauvé ces deux colocataires qui racontent ce qui s'est passé.
J'ai dû mettre 3-4 minutes à me dire « putain, mais il y a vraiment le feu ». Et là, c'est les cris des voisins avec « au secours, aidez-moi » et il y a le feu, quoi. Les flammes ont commencé à lécher la fenêtre acide. À ce moment-là, Acide a commencé à envoyer un message à ses parents, direct. Et moi, j'avais plus à mon téléphone parce que je suis allé courir dans sa chambre pour lui dire qu'il y avait le feu, j'avais rien, quoi. La première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit « putain, mes parents, j'aurais crevé sans qu'ils le sachent ». On a entendu les autres voisins qui disaient « faut passer par l'échafaudage ». On l'a foncé à l'aveugle et on a ouvert la fenêtre et là, on est sorti sur l'échafaudage. 2 minutes avant, c'était on va mourir. Dans sa chambre, on n'arrivait plus à respirer, quoi.
Il y avait déjà pas mal de fumée qui était rentrée, comme on était vraiment proche du foyer. Ça s'est accumulé très très vite.
Ouais. Pour moi, c'était fini. Hein.
5 minutes après, on était pris du piège.
Le témoignage de 2 jeunes habitants de l'immeuble de la rue de Nemours à Paris. Impossible pour l'heure de faire le lien entre l'incendie et les travaux de ravalement en cours. C'est ce que précise le premier adjoint à la mairie de Paris. À Belfort, salariés, habitants, syndicats et élus locaux unis contre le rouleau compresseur de General Electric, comme ils le disent. Grande manifestation cet après-midi contre le plan social qui prévoit de supprimer plus de 1000 postes, dont 800 rien que sur le site de Belfort. Ils étaient entre 5 et 8 000 devant la Maison du Peuple. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est venu en soutien, tout comme Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, tous deux anciens candidats à la présidentielle. Des températures anormalement chaudes pour un mois de juin, la France, sauf la Bretagne, se prépare à l'épisode de canicule dès lundi. Il doit durer jusqu'à la fin de la semaine avec des températures qui atteindront les 40 degrés à l'ombre. Une cellule de crise est en place au ministère de la Santé. La ville de Paris active, elle, le niveau alerte canicule. Les températures seront comparables à la canicule de 2015. 2003. Une plage des Côtes d'Armor interdite jusqu'à nouvel ordre à cause des algues vertes. La mairie d'Illion a pris la décision aujourd'hui pour sa plage de la Grand-Ville. Des algues se sont échouées, il est trop difficile de les collecter. Cela présente un risque potentiel de santé publique. L'Allemagne, première qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine à Grenoble. La Mannschaft a battu le Nigeria 3-0 tout à l'heure. À suivre ce soir aussi, Norvège, Australie avec un coup d'envoi à 21h. Nos Françaises, elles, rencontrent le Brésil. Ce sera demain. Il est presque 20h33 sur France Info. La suite des informés, c'est avec Noé Da Silva.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Bonsoir, rebonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les informés jusqu'à 21h avec toujours autour de la table Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard, François de Closet, écrivain journaliste, homme de télévision, Raphaël Kahn, journaliste présentateur du débat sur France 24 et Néla Latrouche, journaliste, rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient de Jeune Afrique. Nous avons donc évoqué il y a quelques instants, si vous étiez avec nous, Jean-Luc Mélenchon. Nous restons à gauche avec le Conseil national du PS. C'était ce matin à Paris. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, appelle à la mobilisation et à l'union de la gauche.
Mais je souhaite qu'issue de ces quelques jours et avant La Rochelle, nous soyons en situation de nous présenter unis comme jamais. Non pas derrière un premier secrétaire, mais derrière un projet commun. Et que nous puissions aller voir tous nos partenaires à gauche et écologistes. Et nous ne soutiendrons à aucun endroit de France un candidat, un maire qui lui-même soutiendrait la politique gouvernementale d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron.
Voilà donc Olivier Faure ce matin au Conseil national du PS. Néla Latrouche, je vous ai vu souffler un petit peu pendant son intervention. Il est quoi ? Il n'arrive pas à emmener avec lui la foule.
C'est les tournures de phrases. Je veux que nous soyons en situation de, c'est-à-dire c'est inutilement empoulé comme tournure de phrase.
Bon.
Et on perd en fait en situation. Je ne sais même plus ce qu'il a dit tellement j'étais marqué par la lourdeur de la formule elle-même. Blague à part, quoique.
C'est sérieux. La forme compte quand on veut haranguer la foule.
Sur le fond, donc on voit bien que le Parti socialiste, mais comme tous les partis, sont déjà complètement tournés vers les municipales. Et à gauche, il serait intéressant de voir d'ailleurs à quel niveau se jouera la guerre du leadership. Bon, a priori, on part sur des municipales extrêmement compliquées où on devrait voir se multiplier les triangulaires, voire les quadrangulaires dans certaines villes. Est-ce qu'il y aura des listes unies dès le premier tour ? Est-ce que ça se jouera entre le premier et le second, est-ce que le PS sera en mesure de rassembler autour de ses troupes avec Europe Écologie qui se voit bien tailler des croupières au Parti Socialiste peut-être sur sa gauche,
les Insoumis qui... Ce n'est pas possible,
Non, c'est bien beau d'appeler à l'union quand on a la plupart des sortants, c'est facile. Mais en fait, est-ce que les autres vont vouloir aller derrière les sortants PS, derrière Martine Aubry à Lille, derrière Stéphane Le Foll, derrière Anne Hidalgo à Paris, parce qu'on va en parler sans doute avec les écologistes, mais c'est ça aussi. Les vraies questions, elles sont là. Et lorsque Olivier Faure jette un anathème, en gros, le PS n'investira, ne soutiendra aucune tête de liste qui soutienne la politique gouvernementale. Mais en revanche, si La République En Marche veut soutenir les maires sortants PS, allez-y. Bon, là, il y a un vrai problème de ligne, non ?
Mais
non,
François Closet.
Pardon, mais il m'a copié. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle des municipales, ça n'a rien à voir avec les européennes. On parle d'abord de situations acquises. Vous voyez, par exemple, même le Parti communiste a des positions, il n'est pas à 2%. Hein, ils ont des positions dans des villes, et c'est à partir de là qu'on discute et qu'on fait des alliances, et là-dedans, vous cessez de raconter des histoires, l'idéologie, c'est pas le problème, hein. Il faut garder ou conquérir la ville, il y a une situation, et on joue en fonction de ça, et les différences réellement politiques au sens idéologique, hein. Si vous pouvez me dire, à Lyon ou autre, ce que sont les oppositions entre les candidats en présence, non.
Mais c'est du coup, il est à côté de la plaque quand il dit que pour les municipales, il veut faire revivre le clivage gauche-droite.
Enfin, moi, je crois que vraiment. Alors, s'il y a un demain, je pense qu'au niveau national, ça a du sens. Mais je pense qu'au niveau local, droite et gauche, dans les grandes
même
villes.
Même au niveau national, Pierre Jacquemin n'a pas
moi,
l'air.
Moi, je dois vous dire que j'ai été assez surpris par le début. J'ai lu le communiqué de presse qui est sorti de leur réunion du Parti socialiste et j'ai été assez surpris, justement, de la presque de la radicalité avec laquelle justement ils s'engageaient à faire en sorte qu'effectivement on fasse renaître le clivage droite-gauche. Je me disais, waouh, on est reparti, on va en faire, le Parti Socialiste va enfin faire une politique de gauche, ou en tout cas va enfin proposer une politique de gauche. Et puis effectivement, arrive ce moment où ils expliquent, en fait, dans une même majorité, bah, c'est pas grave s'il y a des gens du Modem, c'est pas grave s'il y a des gens de la République En Marche, finalement, c'est pas grave. Et c'est là où il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, quand on fait de la politique, on le fait parce qu'on a des convictions et qu'on a une ligne directrice, on a en tout cas une colonne vertébrale qui est compatible ou qui n'est pas compatible avec une politique. Et on peut pas être d'accord avec Emmanuel Macron au niveau local et au niveau, et pas au niveau national. Enfin, si, au niveau national et pas au niveau local. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Et il va y avoir un certain nombre de problèmes. Et le Parti Socialiste, c'est toujours la même chose. On a toujours l'impression qu'il n'a toujours pas fait, finalement, le bilan de ses échecs. L'Europe est en échec. La montée des nationalismes aussi en Europe, elle est le fruit de la social-démocratie qui n'a pas su mener des politiques de gauche, clairement de gauche, radicalement de gauche. Et que c'est ça le problème du Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, j'ai l'impression qu'il se cherche encore. Il a dit une chose qui est assez juste en même temps. La gauche est une fête, il a dit. Et je trouve que c'est tellement une fête, d'ailleurs, que la gauche a la gueule de bois assez de manière permanente.
Entre nous dire que c'est parce que les sociodémocrates n'ont pas été assez à gauche, que la social-démocratie recule, c'est un postulat.
Vous serez d'accord sans doute avec moi, François de Closet, qu'à force de mener des politiques au centre, c'est l'extrême droite qui aujourd'hui en sort vainqueur. Et le problème du Parti Socialiste, c'est qu'il a toujours réussi à faire des coalitions avec le centre droit, pour mener des politiques qui finalement n'étaient pas.
Mais ça, alors, du coup, l'extrême droite ou la République en marche. Attendez, François. C'est l'extrême droite ou la République en marche. Donc, le clivage gauche-droite, il n'a plus lieu d'être.
Le clivage gauche-droite, il a évidemment lieu d'être à partir du moment où justement Emmanuel Macron incarne la droite. Il est la droite, Emmanuel Macron. Les Républicains, on en parlera dans quelques minutes sans doute, sont morts parce que Emmanuel Macron fait ce que les Républicains ont toujours rêvé de faire. Et aujourd'hui, il y a une extrême droite qui est forte. Et comme il y a une gauche radicale qui est forte, et puis il y a une social-démocratie qui essaie de se réinventer, qui peine à se réinventer.
Les Républicains ne sont pas morts.
Moi, je pense pas du tout qu'ils soient morts. Et de manière générale, je pense que les municipales, qu'on aurait effectivement tort de calquer encore une fois les européennes sur les municipales, c'est deux scrutins qui ont rien à voir. Les européennes ont été nationalisées, donc ça a été le troisième tour de la présidentielle, en réalité, qui s'est peu ou prou joué. Sur les municipales, on va aller chercher essentiellement des personnalités très ancrées auprès des électorats. On pourra peut-être y revenir après le rappel des titres. Mais à mon avis, les Insoumis ont une carte à jouer, les Républicains ont une carte à jouer. Le PS, je vois difficilement comment l'étiquette pourrait encore être vendeuse. Et c'est ce que vend Olivier Faure. Nous investirons, nous ferons, etc. C'est pas franchement avec cette marque-là, à mon avis, qu'il fera un all-in, si vous me permettez ce petit anglicisme.
C'est quoi, c'est du poker, ça ?
Comment ?
C'est du poker ?
C'est du poker.
20h40, l'info, Camille Revel.
Un départ de feu a priori au rez-de-chaussée dans un bâtiment en rénovation, mais en bon état. Le premier adjoint à la maire de Paris revient sur France Info sur les circonstances de l'incendie qui fait 3 morts dans le 11e arrondissement de la capitale. Une trentaine de personnes sont blessées. On ne connaît pas l'origine du sinistre. L'intersyndicale de General Electric reçue à la préfecture de Belfort en compagnie de la présidente de la région et du maire de la commune. Rendez-vous après une journée de mobilisation. 5 à 8 000 manifestants contre le plan social. Le groupe veut supprimer plus d'un millier de postes en France. Paris, Marseille, Charleville ou Saint-Malo, nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui avec, selon le ministère de l'Intérieur, 12 000 manifestants dont 1 100 à Paris. Mobilisation en hausse donc par rapport à samedi dernier. La canicule attendue dès lundi et il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper des seniors. C'est le cri d'alarme sur France Info du président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Dans la même situation qu'en 2003, nous aurions des milliers de morts, assure Pascal Chanvert. Toujours la guerre des nerfs entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump annonce de nouvelles sanctions et assure qu'une action militaire est toujours possible. L'Iran lui promet que toute attaque aura des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne au moins. En 8e, les footballeuses allemandes, première qualifiée pour les quarts de finale du mondial féminin, elles battent le Nigeria 3-0.
France Info, les informés. Noé Da Silva.
La suite des informés avec toujours Pierre Jacquemin, François de Closet, Raphaël Cahan, Néla Latrousse. Avant d'évoquer le Conseil fédéral des Verts aujourd'hui, juste un mot. Demain, dans le journal du dimanche, on devrait retrouver Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui dit « Oui, on parle beaucoup de moi en ce moment, il veut rassurer tout le monde, il ne veut pas créer de micro-parti, mais il veut être utile. » Raphaël Cahan, vous en pensez quoi ?
pas grand chose.
Le retour de Bernard Cazeneuve.
Pas sûr que le retour de Bernard Cazeneuve fasse rêver forcément les Français. Il a quand même gouverné le pays dans une période très compliquée. On s'en souvient. C'était l'impasse pour la candidature de François Hollande. Et d'une certaine manière, il a un peu occupé le terrain après le départ de Manuel Valls, précisément pour suppléer l'absence de candidature de François Hollande. Dans ces conditions, à quoi est réellement associé Bernard Cazeneuve dans le regard des Français? Je suis pas sûr que ce soit très porteur, en fait, mais c'est un peu le pendant, finalement, au PS de ce que sont, on va en parler pour les Républicains, par exemple, le président du Sénat, qui est un peu une incongruité.
Mais il a la trousse, Bernard Cazeneuve, sauveur du PS.
Non, manifestement, il est en grosse offensive, puisque, outre cet entretien, il y a un livre, je crois, qui sort à l'automne, il y a le pot des sénateurs socialistes en juillet. Comment?
Vous voulez dire que c'est flou?
Je veux dire qu'il a par ailleurs, pendant les européennes, fait savoir qu'il serait disponible pour les candidats qui le souhaiteraient pour les municipales. Donc il y a manifestement à minima, on va dire, une volonté des Hollandais de conserver la main sur un appareil qui, pour moi, aujourd'hui, est un appareil mort. Il n'y a qu'à voir, encore une fois, aux européennes, le candidat Raphaël Glucksmann n'était pas le candidat du PS, il était candidat sous une liste qui portait un autre nom. Et la marque en elle-même, aujourd'hui, n'a plus une valeur incroyable comme du temps où François Hollande était premier secrétaire. Et on voit que Bernard Cazeneuve, d'ailleurs, dans les gens qui le poussent, on va retrouver un Michel Sapin qui le trouve formidable, on va retrouver un Patrick que des Hollandais.
Tous ces gens qui arrivent et disent « Moi, je vais réconcilier. » Moi, j'en fais un de plus à chaque fois. Et ça divise encore plus. Mais enfin, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que c'est en abusant de la division droite-gauche qui est réelle. Hein. Mais en voulant faire que tout soit de droite, de gauche, de droite, de gauche. Et les Français voient bien que la politique, c'est pas ça. Que la politique, ça consiste pas à appliquer un programme et des promesses, que ça consiste à gérer un pays et qu'on le gère avec des mesures qu'on classerait à droite, à gauche, avec le pragmatisme. Vous avez tué, tout simplement, les partis de droite et de gauche en abusant de cette notion.
Et quand vous dites ça, vous regardez Pierre Jacquemin.
Mais oui, parce qu'il me disait,
il y a une lourde
que
responsabilité ce soir.
C'était la disparition de la droite gauche. L'abus de la droite gauche a tué la politique en France.
Non, je crois pas. Je pense que ce qui a tué la politique, c'est effectivement d'avoir, de s'être fait élire sur un programme de gauche ou un programme de droite. Bon, la droite, elle a pas tout à fait ce problème, mais en tout cas, d'avoir un président comme François Hollande qui s'est fait élire sur un programme de gauche qui mène une politique de droite, c'est ça qui tue aujourd'hui les clivages droite-gauche.
Mais parce qu'il n'y avait pas de politique de gauche possible.
Mais parce que, mais bien sûr que s'il y a une politique de gauche possible dans ce pays.
Peut-être que les Verts vont meilleur arbitrer François de Closet et Pierre Jacquemin.
Personne ne fait une politique de gauche, vous l'avez pas remarqué ?
Peut-être que les Verts vont arbitrer avec notamment le Conseil fédéral aujourd'hui des Verts. Et c'était la fête du melon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yannick Jadot, le député européen, se sent pousser des ailes et il assume.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours confortable avec l'élection présidentielle. Mais qu'il soit clair que ce temps de l'hésitation, ce temps du doute, est révolu. À toutes ces élections, nous devons désormais assumer la conquête du pouvoir. Alors j'entends déjà les railleurs nous dire que nous avons le melon. Souvenez-vous, nous étions les pastèques. Et aujourd'hui, on aurait le melon. Quel amour de nos détracteurs pour les cucurbitacées.
Pourquoi les pastèques? Parce que on se souvient de ce trait de Jean-Marie Le Pen qui, à l'heure de vérité, était venu avec une pastèque qu'il avait ouverte pour montrer, regardez, les verts, c'est vert dehors, rouge dedans. Alors, est-ce qu'ils ont
Il a raison d'avoir le melon, avec 13,5% de voix obtenues aux européennes.
Oui, avec 13,5%, c'est autour de lui, a priori, que ça va se fédérer, parce que c'est d'abord, ce sont des thèmes très porteurs aujourd'hui dans l'opinion publique. Pas forcément municipal, évidemment, ils ne sont pas sortants dans la majorité des communes, et loin de là. Mais pour autant...
Regardez qu'à Paris, le candidat des Verts à Paris avait dit « Mais pourquoi on irait toujours derrière Anne Hidalgo? Pourquoi Anne Hidalgo n'irait pas derrière nous ?»
Parce qu'il y a même une politique écologiste, justement. Alors, quel besoin d'un candidat Vert à Paris quand on a Anne Hidalgo? Là, pour le coup, on peut vraiment se poser la question, non?
François
Closet. Quand même, il y a une montée indiscutable de l'angoisse. L'angoisse, vraiment écologique. Hein. C'est plus la préoccupation, c'est vraiment la peur, l'angoisse. Et je dois dire... J'étais assez déçu en écoutant Édouard Philippe dire « Je me suis converti à l'écologie. Ah bon, vous voulez faire, je vais fermer Fessenheim. » Non mais c'est pas vrai. Il faut s'attaquer à nos façons de vivre, autrement on s'en sortira pas, à notre alimentation. Il faut s'attaquer à résidence secondaire, faut remettre tout ça en cause. Et les hommes politiques des partis ne le peuvent pas. Il n'y a que les écologistes qui éventuellement pourraient le faire à leurs risques et périls. Et c'est ça leur enjeu, me semble-t-il.
Pierre Vecmin.
Oui, le problème de la gauche, de manière générale, ça a été le Parti Socialiste, ça a été la France Insoumise, ça va être demain les écologistes, c'est l'hégémonie. Ils ont toujours, la volonté d'être hégémonique à gauche, donc pour pouvoir entraîner tout le monde derrière soi. La question qui va se poser, c'est pas tant de savoir s'ils partent au premier tour, ou tant pis, ou tant mieux, s'ils partent au premier tour et qu'ils se comptent et peut-être qu'ils feront des très bons scores et tant mieux pour eux, et la gauche se rangera derrière les écologistes. La question, c'est quelle stratégie de second tour? Et c'est là où, justement, l'enjeu de regagner des villes en France va se jouer. Donc, il faut pas être, je sais pas s'il a le melon, mais en tout cas, moi, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'une élection européenne, les écologistes avaient fait jusqu'à 17%. Ils n'en ont pas fait grand-chose derrière les écologistes. Donc les élections européennes profitent souvent, d'ailleurs, aux écologistes. Donc ils ont fait un bon score, qui n'est quand même pas un score non plus délirant. Ils ont fait 13% compte tenu des enjeux écologiques. On aurait pu imaginer qu'ils fassent davantage.
Conclusion, Naïla Latrousse, les Verts, il ne faut pas les attendre aux prochaines élections.
Moi, je constate que ceux qui sont arrivés deuxième ou troisième aux dernières européennes depuis 1999 n'ont pas été époustouflants sur les élections nationales ou locales qui ont suivi, en fait.
C'est pas du tout la même chose. Les européennes.
Vous avez raison, le contexte est différent. Mais quand même, il y a une responsabilité. Je voudrais juste terminer là-dessus parce que, en fait, si, ils ont le melon, ils ont carrément le melon, même en fait, les écologistes. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'à force d'avoir tous le melon, ça a été Jean-Luc Mélenchon un temps, il n'en a rien fait, ils sont arrivés à 6%. Les écologistes, à vouloir faire tout seul sans les autres, à oublier qu'il y a d'autres histoires, il y a d'autres sensibilités de gauche, ils vont faire 100. Et on va se retrouver avec des quadrangulaires ou je sais pas combien, on va découvrir des nouveaux mots d'ailleurs, tellement il va y avoir de candidats.
Il faut bien se fédérer un moment autour. On évoque, pardon Raphaël, je ne sais pas s'il a le melon, mais passons à droite avec cette candidature annoncée de Christian Jacob chez les Républicains, et a priori, il n'y a pas grand monde face à lui.
C'est le plus petit dénominateur commun, il est magnifique. Avant qu'il ait parlé, tout le monde sait ce qu'il va dire. S'il y avait aucun problème à droite, il serait très bien. Il faut reconstruire la droite. Je ne vois pas comment il le fera.
On parlait de Bernard Cazeneuve pour le PS. Bon, ben voilà, il y a Gérard Larcher et Christian Jacob chez les Républicains.
Je vous trouve sévère avec Christian Jacob quand même.
Le comparer à Bernard Cazeneuve, ou alors c'est peut-être trop sévère pour Bernard Cazeneuve. Ça, c'est une autre histoire. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça convient à tout le monde? Ben oui, sans doute, parce que finalement, ça gèle les ambitions le temps où il occupera le devant de la scène.
Il a la trousse.
C'est un très bon candidat pour les Républicains, Christian Jacob. Il a à peu près connu tous les postes. Il a été ministre, il a été député européen, il a été député national, il a été élu local.
Il est
local,
président du groupe UMP, les Républicains, à l'Assemblée nationale depuis 2010.
Il a maintenu le groupe en un seul bloc au moment de la crise de 2012 entre Copé et Fillon.
Mais est-ce qu'il ne représente pas la droite qui a raté les européennes? Il était contre le mariage pour tous, il s'était opposé violemment à Christiane Taubira. Est-ce que ce n'est pas la droite qui a été sanctionnée?
Toute la question est de savoir, en fait, quel sera son mandat à la tête de la droite et des Républicains. Si l'objectif, c'est de reconstruire des fédérations, de repartir du terrain, un bon profil d'agriculteur pour labourer le terrain, si vous me passez le petit jeu de mots, ça reste quand même extrêmement approprié. C'est quelqu'un qui, dans toutes les dernières crises à droite, a toujours su tenir une position d'équilibre. Lorsque, encore une fois, il y a eu le conflit Fillon-Copé, il a été proche de Sarkozy, il a été proche de Jacques Chirac. C'est un bon profil de synthèse pour reconstruire un parti qui tombe en ruine depuis quelques années. C'est bien ce que je dis, tout dépend quel sera son mandat.
Eh bien, voilà. C'est sur cette question que nous tournons la page pour laisser le rappel de l'info et Camille Revel.
5000 manifestants d'après la préfecture, 8000 pour les syndicats, mobilisation à Belfort aujourd'hui contre le plan social de General Electric, un millier de suppressions de postes prévues dans toute la France, dans le cortège des salariés, des habitants, des politiques comme Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui tient un nouveau numéro 2, Adrien Quatennin, s'est nommé coordinateur de la France Insoumise. Le député du Nord remplace Manuel Bompard, élu eurodéputé. Une quinzaine d'interpellations et des gardes à vue à Charleville-Mézières, lieu d'un appel national à manifester aujourd'hui pour les Gilets jaunes. Au bilan, 12 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, contre 7 000 samedi dernier. On en sait plus sur l'homme tué par balle hier soir en pleine rue en Corse, à Corté. Ce pompier à la retraite, âgé de 64 ans, sortait d'un bar. Il était connu de la justice, avait notamment été mis en examen pour meurtre, des faits assez anciens, selon la procureure de Bastia. Aucun avion géorgien n'atterrira en Russie à compter du 8 juillet. Décision du Kremlin après des manifestations à Tbilissi, la capitale géorgienne, contre le pouvoir jugé trop pro-russe. Très honnêtement, je n'en suis pas encore à faire des plans. Là, c'est Roger Federer qui parle et qui donc ne planifie pas sa fin de carrière. À 37 ans, le tennisman suisse est en finale du tournoi de Halle. Sa priorité, c'est la famille et la santé.
France Info. France Info. Les informés, Noé Da Silva.
Les informés avec toujours Pierre Jacquemin, François de Closet, Raphaël Cahan, Neila Latrousse. Et à 20h52 minutes, c'est samedi soir, c'est l'heure des coups de cœur des informés ce soir. Et nous commençons avec vous, Raphaël Cahan, vous nous emmenez à Hong Kong.
Oui, parce que les manifestations là qui se déroulent depuis plusieurs semaines maintenant à Hong Kong forcent le respect, parce que c'est vrai que s'opposer à la Chine aujourd'hui, c'est quand même pas évident. À l'origine, c'est un projet d'extradition en fait, qui rend possible.
Projet de loi qui rend possible l'extradition,
qui rend possible l'extradition des citoyens hongkongais vers la Chine continentale à laquelle se sont opposés les Chinois. La Chine est partie d'un fait divers, en fait, un assassinat à Taïwan. Comme un prétexte, enfin, c'est bien la première fois que la Chine veut rendre service à Taïwan. Le prétexte, évidemment, on comprend, c'est permettre d'exfiltrer les prisonniers politiques et de les rapatrier vers la Chine continentale. Ça a créé des mouvements sans précédent. Il y a des millions de Hongkongais dans les rues pour exiger
désormais. Le projet suspendu.
Alors le projet, ils ont obtenu la suspension du projet. C'est une première depuis 2003. Déjà en 2003, ils avaient réussi à faire céder une première fois la Chine, mais on était très près à l'époque de la rétrocession.
Et pourtant,
là, ça montre quand même qu'il y a un pouvoir.
Et ça ne s'arrête pas
parce qu'ils veulent maintenant, là, évidemment, ils ont obtenu la suspension. Ils sont conscients désormais de leur pouvoir de pression qui est quand même sans précédent sur Pékin et sur Xi Jinping qui avait quand même eu un discours extrêmement martial l'année dernière à l'occasion du 19e congrès du Parti communiste chinois. Donc là, on voyait bien qu'il avait une ligne toute tracée et ses projets aujourd'hui sont battus en brèche et ils veulent aller plus loin. Ils demandent la démission de Carrie Lam, chef de l'exécutif. Une dernière chose, c'est qu'il y a une pétition qui circule ici en France pour qu'on lui retire la Légion d'honneur parce que la France, évidemment, avait accordé la Légion d'honneur à Carrie Lam.
Alors voilà pour les manifs à Hong Kong, le coup de cœur de Raphaël Cahan. À l'étranger, le coup de cœur de Neila Latrousse, c'est une photo.
C'est une photo qui a été prise hier à Alger, 18e vendredi de manifestation.
Continue.
Alors
de
je vais la décrire un petit peu pour nos auditeurs en radio. C'est un jeune homme interpellé par trois policiers. Le poing serré, le poing gauche serré, le bras droit qui fait le V de la victoire et un regard extrêmement déterminé.
Alors
le contexte de cette photo,
Il
regarde bien l'objectif. Le contexte de cette photo, c'est que ce jeune homme a été interpellé parce qu'il brandissait un drapeau berbère. En l'occurrence, le chef d'état-major a fait un discours pour appeler les manifestants à coller autour du seul drapeau national, le vert blanc rouge, qui est effectivement le seul emblème reconnu par la Constitution, par l'État. Le drapeau berbère est lui davantage une revendication culturelle, devenue d'ailleurs au fil des ans une forme de revendication de la diversité algérienne où on trouve des Kabyles, des Chaouis, des Arabes, des Touaregs et un certain nombre, d'autres ethnies ou d'autres d'une certaine façon de populations venues d'ailleurs, des Juifs, des chrétiens, je sais pas, peut-être des bouddhistes. Et cette photo-là, elle dit beaucoup de choses. Elle dit d'abord la détermination de ces manifestants à obtenir que cette diversité soit reconnue. Ce n'est pas une revendication politique autonomiste comme certains voudraient le faire croire, mais c'est vraiment une revendication de diversité. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Des millions de personnes dans les rues d'Algérie portant ce drapeau aussi berbère et réclamant le changement de régime en disant « Écoutez, essayez pas de nous embrouiller avec vos diversions. En réalité, ce qu'on veut, c'est vraiment un changement de système, une démocratie, un état de droit. » Nous embrouillez pas avec vos histoires identitaires.
Et là, ils n'ont pas pu être tous arrêtés. Pierre Jacquemin, votre coup de cœur, c'est pour le Festival des idées. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est une bonne idée qu'ont eu l'ancien député socialiste Christian Paul et le rédacteur en chef d'Alternatives économiques Guillaume Duval, qui ont décidé de lancer ce festival début juillet, le 5-6-7 juillet,
à
la Charité-sur-Loire, où l'enjeu, c'est justement d'expliquer qu'on n'est pas dans un monde comme l'expliquerait Emmanuel Macron, où tout opposerait les progressistes d'un côté, les nationalistes de l'autre. Il y a un monde qui est un peu plus complexe et donc l'idée, c'est de faire se rencontrer, réunir des intellectuels, des artistes, des politiques. Et donc l'idée, c'est justement de faire émerger aussi un peu une génération nouvelle, des idées nouvelles. Et j'en profite parce que
pourquoi
parce qu'on manque un peu d'idées quand même, je pense, aujourd'hui.
Et la gauche manque d'idées. Qui
non, mais ça va servir à ça sert à tout le monde. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné, le monde se rencontre. Les artistes ne rencontrent plus les politiques ne rencontrent plus les intellectuels. Et donc tout ce monde-là a vocation à se réunir et à se rassembler. Et je finis sur l'auto-promo parce que Regard, dont j'assure la rédaction chef et partenaire de cet événement, et j'aurai l'honneur d'animer un débat qui s'appelle « Faut-il rêver pour faire de la politique ?» et je pense qu'on manque aussi de rêve quand on fait de la politique.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même. François de Closet, votre coup de cœur ?
Moi, je voudrais parler d'un spectacle de théâtre. C'est « Hors la loi » que la Comédie française présente dans sa salle du Vieux Colombier. Alors, de quoi il s'agit ? Vous savez, très souvent, les gens de théâtre veulent faire passer un message, l'antiracisme, etc. Et les bons sentiments, ça fait pas toujours
toujours des bons spectacles. Et là, il y a un vrai message, un message civique et un spectacle absolument formidable. Alors, je dirais que Pauline Bureau a fait un véritable travail d'enquêteur et d'historien sur l'affaire de Bobigny. Or, bon, vous en souvenez sans doute pas, c'est l'affaire qui a été en quelque sorte la rampe de lancement de la loi Veil sur la légalisation de l'avortement. De quoi s'agissait-il à Bobigny, une jeune fille de 15 ans est violée par son copain. Et ensuite, c'est pas comment avorter, et dans ce milieu, elle avorte dans des conditions absolument horribles. Mais ce copain, le violeur, est un voleur, il est arrêté par la police, il la dénonce, et que fait la police? Elle libère le voleur et elle passe les menottes
la suite,
à la mère
hors
et
la
à
loi.
La fille.
Il faudra
et donc,
aller
hors
le voir.
La loi, le procès de Bobigny est reconstitué d'une
Merci.
Façon extraordinaire.
Merci, les informés, c'est terminé pour ce soir. Merci de rester à l'écoute de France Info. Bonne soirée.